13h-14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h07 sur Europe 1, on est ravis d'être ensemble, merci de nous rejoindre pour écouter le monde changer, la France se bouger, et même si vous êtes en ce moment chez vous, confiné, pour respecter les mesures, vous allez voir qu'il y a des tas de moyens d'être solidaires, notamment avec les personnes âgées isolées. Avec moi, à distance bien sûr, Aurélien Fleureau est là. Bonjour Aurélien.
Bonjour Raphaël.
Vous allez évidemment, tout au long de cette émission, nous faire découvrir des tas d'initiatives que vous avez relevées au profit de nos seniors. Et puis, oui, des invités seront avec nous aussi parce qu'ils se mobilisent, à commencer par la Croix-Rouge. Bonjour Marielle Meras.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la responsable du projet Croix-Rouge chez vous. Depuis le début de cette crise, vous avez en quelque sorte mis entre parenthèses certaines de vos activités pour donner la priorité à celles qui sont cruciales, agir sur l'urgence sanitaire et sociale. Ça se traduit comment par cette initiative Croix-Rouge chez vous, justement?
Alors effectivement, la Croix-Rouge française a mis en place depuis le 20 mars dernier un nouveau service qui s'appelle Croix-Rouge chez vous et qui permet d'apporter une écoute chaleureuse et un service de livraison solidaire de biens de première nécessité aux personnes qui sont aujourd'hui isolées, comme vous le disiez, c'est-à-dire à toutes celles et ceux qui aujourd'hui n'ont ni proches, ni voisins, ni aidants familiaux avec qui échanger et à qui confier ses courses. Donc ces personnes peuvent nous appeler tous les jours de 8h à 20h sur un numéro non surtaxé qu'on a créé à cette occasion.
Oui, on va le donner, c'est le... Voilà, 09 70 28 30 00, 09 70 28 30 00.
Voilà, tout à fait. Et donc nos bénévoles de la Croix-Rouge sont ainsi à votre disposition et sont là pour, comme on le disait, apporter une écoute chaleureuse et enregistrer des demandes de livraison de produits alimentaires, d'hygiène et de médicaments si nécessaire.
Alors justement, les bénévoles, vous en parlez, ils sont de plus en plus nombreux. Je crois que vous avez les derniers chiffres qui datent de ce matin et qui sont en constante évolution.
Oui, effectivement, on a énormément de bénévoles qui se mobilisent. Alors déjà, les bénévoles de la Croix-Rouge française qui sont au nombre de plus de 60 000 personnes déjà. Et puis, on reçoit aussi dans ce contexte beaucoup de propositions de concitoyens qui souhaitent s'engager à nos côtés. Et donc, effectivement, on a recensé aujourd'hui plus de 2500 personnes qui souhaitent nous rejoindre.
2500 personnes qui souhaitent vous rejoindre. Alors qu'est-ce qu'elles font, ces personnes qui ont envie de venir travailler avec vous? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut se manifester auprès de quelqu'un en particulier?
Eh bien, le numéro que vous évoquiez tout à l'heure permet aussi de recueillir ces demandes de bénévolat ponctuel. Donc, toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre peuvent appeler. Nous, on enregistre ces demandes et on les transmet aux structures locales de la Croix-Rouge qui se trouvent à proximité de ces nouveaux bénévoles.
Alors, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on accueille ensemble quelqu'un qui aussi, à sa manière, aide les personnes âgées qui sont isolées et qui participe justement à cet effort de solidarité. Nous sommes en ligne avec Béatrice Agrand. Bonjour.
Bonjour, Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'agence du service civique. Là aussi, il y a une plateforme qui a vu le jour, qui est baptisée jeveuxaider.gouv.fr et qui recense les bonnes volontés des personnes qui veulent donner de leur temps, qui veulent se mobiliser pour les personnes âgées.
Alors, ce que j'ai à dire est parfaitement complémentaire avec l'intervention, enfin avec le témoignage de la Croix-Rouge, parce que nous avons aujourd'hui plus de 300 jeunes en service civique à la Croix-Rouge qui se sont réunis dans un programme qui s'appelle Confinés mais solidaires et qui sont engagés dans des actions de solidarité de voisinage, comme faire des courses pour leurs voisins.
Il faut savoir comment ça marche. On vous écrit pour s'inscrire.
Alors, je voudrais bien faire la différence entre la réserve civique qui a été lancée par le gouvernement sous la houlette de Gabriel Attal, oui, et l'agence du service civique, qui est un opérateur public de l'État qui permet chaque année à 140 000 jeunes de s'engager dans des missions d'intérêt général. Aujourd'hui, il y a en France 55 000 jeunes qui sont sous contrat de service civique, dont la majorité ont transformé en fait leur action en télémission, par exemple, ils gardent le lien de manière numérique avec des personnes âgées ou ils participent au maintien de la continuité pédagogique avec des enfants, avec des familles. Et beaucoup de ces 55 000 jeunes se sont en plus inscrits à la réserve civique gouvernementale pour donner du temps supplémentaire sur 4 missions considérées par le gouvernement comme vitales pour la nation, qui sont soit des missions qui peuvent être effectuées à distance, soit sur le terrain, comme par exemple, dans l'esprit de ce que fait la Croix-Rouge, faire des courses pour des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est souligner l'engagement des jeunes Français aujourd'hui, parce que vous voyez, ce sont plusieurs dizaines de milliers qui réinventent la solidarité de proximité et qui veulent vraiment en fait agir pour en fait en direction des plus démunis, qui sont souvent les premières victimes du confinement. Donc je crois que ça, c'est vraiment un point très important sur la jeunesse d'aujourd'hui, en fait son énergie et sa capacité en fait à être actif et créatif pour la cohésion sociale.
Oui, c'est intergénérationnel et c'est important de le signaler. Aurélien Fleureau, il y a d'autres associations qui se mobilisent. Hein, je pense par exemple aux petits frères des pauvres pour casser ce fameux isolement dont on est en train de parler.
Oui, dès le début du confinement, l'association a communiqué pour appeler à la solidarité sous différentes formes, et notamment via une ligne d'écoute et de soutien téléphonique destinée aux personnes de plus de 50 ans qui souffrent justement donc de solitude, d'isolement. Alors le numéro, c'est le 0800 47 47 88. C'est anonyme, c'est gratuit, accessible tous les jours entre 15h et 20h. Et puis région par région, les bénévoles des Petits Frères des Pauvres appellent également les personnes qui se trouvent dans leur fichier pour prendre de leurs nouvelles et répondre à leurs besoins.
Et puis on était avec les jeunes du service civique. Je crois que vous avez aussi un autre exemple de solidarité entre générations.
Bah oui, il y a par exemple cette plateforme qui vient d'être lancée par 5 étudiants nantais. Ça s'appelle collectif.fr, co-lectif.fr. L'objectif, c'est de mettre en contact des bénévoles avec des personnes de plus de 60 ans qui auraient besoin d'aide, en particulier pour effectuer des courses de première nécessité. C'est aussi, d'ailleurs, à destination du personnel médical pour leur faire gagner du temps. Et puis, il y a aussi des plateformes qui existaient déjà, comme Granny et Charlie, qui renforcent ces troupes, évidemment, en ce moment, avec des étudiants bénévoles pour des petits travaux et des aides du quotidien.
Alors, retour avec vous, Marielle Meras, vous êtes toujours en ligne avec nous pour ce projet Croix-Rouge chez vous. Vous vous attendiez à un tel engouement, à une telle mobilisation quand vous l'avez lancé le 20 mars dernier ?
Alors effectivement, on a vu que ce service était utile chaque jour en voyant grossir le nombre d'appels qu'on a reçus. Aujourd'hui, c'est plus de 70 000 personnes qui nous ont appelés via ce numéro. C'est plus de 20 000 paniers qu'on a livrés partout dans les territoires. Donc effectivement, cette utilité est bien réelle. On s'en doutait effectivement puisque en fait, on avait déjà vu les effets du confinement aux Antilles lors notamment de cyclones, puisque comme vous le savez, la Croix-Rouge française compte parmi ces organisations qui sont impliquées dans la réponse à l'urgence. C'est le cas du Covid aujourd'hui, mais c'est aussi dans d'autres circonstances le cas de catastrophes naturelles. Et donc voilà, au travers de notre expérience aux Antilles et puis plus récemment à Carry-le-Rouet, qui est le tout premier centre où ont été rapatriés et confinés les personnes de Wuhan, on a pu constater que le seul accompagnement sanitaire finalement ne suffisait pas et qu'il fallait aller plus loin en proposant à la fois cette écoute du système de conciergerie solidaire.
Béatrice Agrand, vous êtes toujours avec nous, vous êtes la présidente de l'agence du service civique. La question qui se pose aussi, c'est on va aider, c'est très bien, mais on est en capacité de protéger hein, les personnes qui font ce soutien justement auprès des personnes âgées, c'est-à-dire qu'elles ont des masques, elles ont du matériel pour se protéger elles-mêmes.
Ça, c'est absolument indispensable. Vous parliez tout à l'heure de la réserve civique. Toutes les missions qui sont publiées sur la réserve civique, ces besoins d'aide, sont évidemment vérifiés par les services déconcentrés de l'État, qui s'assurent que les missions peuvent être effectuées dans le respect des gestes barrières et des conditions sanitaires. C'est absolument indispensable, évidemment, de protéger, quand il s'agit de jeunes, de les protéger et que les personnes avec lesquelles ils sont en contact soient également protégées. Donc ça, c'est évidemment une condition qui n'est pas négociable pour toutes les actions sur le terrain. Et par ailleurs, il y a encore toutes les actions qui peuvent être effectuées à distance. Il y a beaucoup de jeunes en service civique qui sont en contact plus plusieurs fois par semaine avec des personnes âgées à qui ils envoient des cartes postales numériques, des jeux, des charades pour exercer leur mémoire. Donc beaucoup de choses sont à inventer. Et sur le terrain, encore une fois, vous avez des jeunes en service civique qui agissent pour sous leur contrat de service civique ou dans le cadre de la réserve civique, qui vont par exemple faire la promotion des gestes barrières en ouais. direction de publics non francophones. Ils vont leur expliquer aussi l'information, ces publics non francophones qui sont parfois extrêmement perdus dans le contexte actuel. Et évidemment, ils sont équipés de masques, de gants et sont parfaitement protégés, évidemment.
Et vous le disiez, on a beaucoup de choses à inventer et vous allez voir qu'on les invente en ce moment, ces choses-là. Merci à toutes les deux d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, 13h18.
Europe 1.
Et si le facteur, tiens, était aussi le relais numéro 1 pour les personnes âgées, eh bien vous allez voir que la Poste s'est organisée pour. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Et la France bouge grâce à vous à 13h20 sur Europe 1. Et il y a, vous le savez, pour les personnes âgées, des rituels que nous, encore en activité, nous avons parfois un peu oubliés, comme le passage du facteur. Bonjour Vincent Deloche.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable du projet Veiller sur mes parents à La Poste. C'est vrai que dans cette période un peu particulière de solitude pour les personnes âgées, La Poste a souhaité se mobiliser parce que beaucoup de personnes âgées, je le disais, estiment que le facteur, c'est aussi le rendez-vous du quotidien.
Exactement. Veiller sur mes parents, c'est un service qui existe depuis 2017. Nous comptons plus de 9000 bénéficiaires et effectivement, ça consiste à venir visiter les personnes âgées au sein de leur domicile. Ces visites, elles ont lieu pendant toute la semaine, du lundi au samedi.
Oui, 2017, mais là, j'ai envie de dire, ça prend encore plus son sens.
Et tout à fait. Et c'est important que le facteur puisse continuer dans le cadre de ses tournées à visiter la personne âgée, parce qu'on doit évidemment rompre l'isolement, on doit rassurer les personnes âgées et on doit aussi rassurer leurs proches, leur dire que tout va bien. Donc plus que jamais, effectivement, La Poste a souhaité finalement se mobiliser encore un petit peu plus et soutenir ces personnes âgées en proposant cette fameuse visite de lien social qui est effectuée au domicile par le facteur et en la rendant gratuite une fois par semaine.
Donc ça veut dire que le facteur va passer un coup de fil à la personne avant de venir la visiter et si elle accepte, il passe un petit moment avec cette personne ?
Exactement. Systématiquement, avant chaque visite, nous demandons par un appel téléphonique aux bénéficiaires s'ils souhaitent ou pas être physiquement rencontrés. C'est important dans les temps qui courent, évidemment, et pour le rassurer. Si la personne ne souhaite pas être rencontrée, la visite se fait par téléphone et l'esprit demeure. Si la personne souhaite être rencontrée, bien sûr, en respectant l'ensemble des gestes barrières, le facteur se rend au domicile et passe un moment avec la personne. Et c'est d'ailleurs un moment assez agréable. J'ai beaucoup de témoignages de sympathie. On a des niveaux de satisfaction qui sont assez élevés. C'est un moment d'échange, c'est un moment d'écoute. C'est d'abord un moment de partage, tout simplement, parce que le facteur va poser des questions à la personne, va lui demander ce qu'elle a fait pendant la semaine, les émissions de télé qu'elle a regardées. Potentiellement, elle peut lui demander des nouvelles de ses proches. Et puis, à son tour, le facteur va lui donner des nouvelles du quartier. Et puis, en toute fin de visite, il va en fait lui demander si elle a des besoins particuliers, des livraisons de courses, des livraisons de repas. Et à partir de ce moment-là, si la Poste est en capacité de pouvoir les opérer, on le met directement en relation avec le bon service pour pouvoir lui délivrer.
Vous avez vu justement depuis la crise du Covid-19, le nombre de demandes augmenter pour justement venir vous aider dans ce service ou peut-être des proches qui auraient besoin de ce service et qui n'y avaient pas pensé avant ?
Oui, alors c'est la raison pour laquelle depuis 10 jours, depuis le 27 mars, on propose cette visite de lien social gratuite hebdomadaire. Il suffit pour ça d'ailleurs d'appeler le centre de relations clients Veiller sur mes parents. Si je me permets de donner le numéro de téléphone, c'est le 0800 000 0011. Et effectivement, nous avons sur la période de 10 jours, depuis le lancement de l'opération, multiplié par 8 le nombre d'inscrits. Donc effectivement, on a vraiment le sentiment et on est ravis que ce service trouve vraiment son public dans ces périodes compliquées. Et plus évidemment nous aurons de personnes qui s'inscriront, plus La Poste pourra participer à l'effort collectif.
En complément de ce que La Poste met en place, Aurélien Fleureau, il existe aussi des manières, d'autres manières finalement d'aider les personnes âgées ?
Oui, par exemple, il y a Merci Facteur. C'est une plateforme en ligne qui propose d'envoyer son courrier, mais sans sortir de chez soi. Vous pouvez donc envoyer une lettre, une carte, une photo. Vous sélectionnez, donc en ligne, hein, ça se passe. L'impression et le déplacement ensuite jusqu'à la poste, eh bien, il sera effectué par les équipes de Merci Facteur. Cela coûte par exemple 89 centimes pour une lettre. Et puis il y a aussi cette belle initiative, une lettre, un sourire, pour envoyer un mot ou un dessin dans un EHPAD, hein, pour aussi garder ce contact. Ça a été créé par une dizaine de cousins âgés de 14 à 24 ans. Et ils ont déjà collecté plus de 30 000 messages.
Alors vous restez avec nous, Vincent Deloche, quelques minutes, parce qu'il y a une autre initiative qui va dans le même sens, celle de la solidarité bien sûr. C'est celle que mène en ce moment Mamie Boom. Bonjour Céline Leblanc.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Merci d'être avec nous. Vous avez-vous mis en place un service qui propose de faire les courses, hein, pour éviter justement que ces personnes âgées isolées ne sortent de chez elles? Comment ça se passe pour le moment?
Oui, exactement. En fait, il y a deux services. C'est faire une course, donc médicaments ou nourriture, pour leur éviter de sortir parce que c'est une population à risque. Et un deuxième service d'appel pour maintenir le lien social. Aujourd'hui, on a 200 volontaires qui sont inscrits dans toute la France. Et l'idée, c'est de continuer à mailler le territoire et de venir en aide à ces personnes. Donc voilà, je mets en relation les personnes âgées avec des volontaires pour cet accompagnement.
Comment vous est venue l'idée de justement agrandir ce service? Parce que c'est, je crois, un petit peu le sens de l'appel que vous vouliez passer aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez ces 200 volontaires, mais vous n'avez pas forcément le public à qui l'adresser, ou en tout cas pas encore suffisamment.
Oui, voilà, on a aidé une vingtaine de personnes âgées en direct, mais on peut faire beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin, mais à qui l'information n'est pas arrivée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à mailler le territoire avec des volontaires dans toute la France, mais surtout de partager l'information auprès des personnes âgées, auprès des structures d'hébergement, auprès des associations qui pourraient avoir besoin de renforts, pour continuer à aider les personnes qui en ont besoin. Donc pour celles qui veulent nous appeler en direct, il y a le numéro 07 49 28 27 28, 07 49 28 27 28, ou pour s'inscrire sur le site de Mamie Boom en direct.
Et puis, je crois que ça marche aussi pour les structures d'hébergement qui veulent organiser les appels de leurs résidents.
Exactement, parce que le risque, en fait, c'est que là, ils sont concentrés sur la santé physique. Hein. Bien sûr, c'est la priorité, l'urgence du moment. Mais on peut avoir des risques de syndrome de glissement avec de la déshydratation, le refus de s'alimenter, parce que une perte de repères liée à, voilà, il n'y a plus de visites, ils sont confinés dans les chambres. Et c'était la situation notamment de ma grand-mère qui est en EHPAD à Poitiers, à 400 kilomètres. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer cette chaîne de solidarité, parce que j'ai vu le fait qu'elle soit, enfin, la difficulté d'être seule dans sa chambre, de plus avoir de contact avec l'extérieur. Et donc, comment passer des appels pour maintenir un lien social avec des volontaires qui n'attendent que de se rendre utiles.
Et oui, c'est ça, avoir une bonne idée aussi, c'est souvent partir d'une expérience personnelle. Aurélien, dans la lignée de ce que fait aujourd'hui Mamie Boom, vous avez trouvé d'autres initiatives, hein, je crois aussi, toujours pour briser cette fameuse solitude.
Oui, en gardant le contact encore une fois par téléphone, hein, il y a ce projet qui a été lancé il y a quelques jours par le réseau d'associations ADMR en Seine-Maritime, l'aide à domicile en milieu rural. Cela s'appelle le fil solidaire. Ils ont pris leur répertoire pour contacter leurs bénéficiaires. 200 seniors ont ainsi été ciblés, en particulier autour de Rouen et de Dieppe. Et puis, autre initiative locale qui est partie d'un cas concret en Bretagne. Laurent Ducrot, fondateur de Solidarmonde, a créé le colis des aînés. Cela correspondait là aussi aux besoins de son grand-père de 95 ans. Et c'est donc la possibilité de recevoir un panier rempli de produits bio pour 50 euros sans frais de livraison.
Et oui, on voit qu'il y en a partout des initiatives en France, avec ce projet Veiller sur mes parents à la poste, mais aussi Mamie Boom. Merci à tous les deux, Vincent Deloche et Céline Leblanc, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Très Europe 1.
Et on va rester ensemble, évidemment. Vous allez voir que se soigner, faire les courses, apporter les médicaments, ce sont aussi des gestes essentiels, des gestes du quotidien, et que les initiatives affluent, que ce soit de la part des start-up, mais aussi des associations. À tout de suite. 13h30 sur Europe 1, et on vous le dit, hein, depuis 4 semaines maintenant, il faut rester chez vous, c'est le mot d'ordre, mais cela pose aussi tout un tas de problèmes pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, comme bien sûr les personnes âgées. Bonjour Abdelali El-Badawi.
Bonjour Raphaël Duchemin,
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Banlieue Santé. Vous étiez d'ailleurs venu nous voir dans La France Bouge. Après avoir été lauréat des trophées Diversité. Et aujourd'hui, on vous a rappelé parce que vous avez finalement décidé de vous mettre en mode Covid-19, si j'ose dire, vous aussi, avec la création d'une appli qui s'appelle En mode confiné. Appli créée, je crois, avec Contournement, qu'on connaît également ici à la France Bouge.
Erwan, exactement.
Alors, qu'est-ce que c'est cette appli? Comment ça marche?
C'est une appli de coordination sanitaire qui permet en fait d'identifier avec les associations les personnes qui ont le plus besoin et surtout les personnes âgées, isolées, vivant dans des quartiers populaires essentiellement et aussi parfois dans des résidences sociales collectives. On s'est posé la question avec les professionnels de santé tout de suite, de la question sanitaire à la question médicale. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là sont souvent âgées, isolées, ont très peu de moyens de se déplacer, ne parlent pas forcément la langue ne parlent pas forcément le français. Et c'est vrai que pour eux, ça allait être encore plus difficile, le confinement. Et donc, on a décidé d'aller toucher les populations les plus fragilisées par cette application qui permet de coordonner un ensemble d'opérations, c'est-à-dire préparation d'un colis alimentaire ou de plateaux repas servis et préparés dans des conditions sanitaires, parce qu'on ne voulait pas ajouter de catastrophe à la catastrophe. Parce qu'en préparant un colis alimentaire, on peut aussi amener le Covid. Donc, on a décidé avec des équipes de former des personnes à distribuer d'abord, dans un premier temps, les colis alimentaires. Mais on a aussi créé d'autres choses au sein de cette application.
Ce sont pour la plupart, arrêtez-moi si je me trompe, mais des gens que vous connaissez déjà, que vous suivez avec votre association pour, par exemple, des maladies chroniques.
C'est ça, ce sont des patients fragilisés qui ont déjà l'hypertension, diabète, donc des patients à risque. Et donc, on s'est dit d'abord l'alimentaire pour éviter de les faire sortir, donc le confinement par le colis alimentaire ou le plateau repas. Et puis, on voulait aller encore plus loin avec les équipes de professionnels de santé. On a décidé de faire en sorte qu'ils aient aussi la possibilité d'avoir de la téléconsultation à domicile, donc la possibilité d'avoir un médecin à distance avec des équipes d'infirmières et infirmiers qui interviennent au chevet des patients et leur permettent cette téléconsultation.
Oui, ça veut dire que d'un côté, sur cette appli, on peut répertorier les besoins. De l'autre, on va trouver les associations qui peuvent répondre à ces besoins. Et je crois que vous êtes aussi en train de voir comment vous allez pouvoir peut-être financer une cuisine centrale pour justement préparer des repas sous vide dans le département.
C'est ça, effectivement. On a déjà commencé avec une cuisine centrale dans le 93 et on continue à déployer déjà à Marseille. Ça y est, les équipes de Marseille sont déjà prêtes, elles sont déjà parties.
Ça y est, c'est formidable.
Ouais, on
c'est
est déjà
une bonne
à Marseille,
nouvelle.
On est en train de lancer Toulouse et c'est vrai qu'on a commencé aussi avec les bailleurs sociaux aussi d'aller sensibiliser la population issue de leur résidence aux gestes barrières en plusieurs langues et avec des vidéos qui effectivement sont en train d'être transmises sur les réseaux sociaux et autres. Et on a été encore plus loin dans le protocole, c'est qu'on a décidé dans cette plateforme aussi de faire en sorte que les patients les plus fragilisés, mais qui ne nécessitent pas d'aller à l'hôpital ou d'aller en réanimation, mais qui sont testés Covid-19 ou prétendument Covid-19 au travers de leurs symptômes, d'avoir la possibilité d'avoir des infirmières qui interviennent pour leur prodiguer des soins, des perfusions, parce qu'on a eu des patients déshydratés sur lesquels on a tout de suite identifié la problématique et agi avec les professionnels de santé. Puisque les personnes qui nous identifient aussi, les personnes les plus fragilisées, sont les centres de santé, les cabinets médicaux, tous ceux qui travaillent autour de la santé dans les quartiers et au-delà des quartiers.
Alors justement, vous restez avec nous parce que je pense que notre invité suivant va probablement vous intéresser et peut-être que des passerelles vont naître. Oui. Bonjour Émile Brun.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Émile, on vous connaît également. Vous êtes le fondateur de Mon Émile. Vous étiez venu nous présenter votre start-up sur Europe 1. Start-up qui regroupe des soignants. Et eux vont déjà en temps normal au domicile de ces personnes âgées. Aujourd'hui, vous avez utilisé finalement leur laissez-passer pour qu'ils rendent d'autres services de la vie quotidienne.
Oui, du coup, nous, depuis effectivement le 15 mars, on a regroupé du coup un nombre assez important donc de bénévoles qui sont bien sûr essentiellement du personnel infirmier ou médico-social ou aide-soignant qui bien sûr en plus des soins de manière habituelle va réaliser donc les courses pour les gens, du coup aussi récupérer les médicaments mais également rompre l'isolement et du coup en installant les Skype ou WhatsApp pour que les gens puissent communiquer avec leur famille et éviter uniquement de passer des coups de téléphone, parce qu'on sait effectivement que le visuel est quand même assez important. Donc on a regroupé vraiment voilà, un nombre assez, assez important, mais aussi de gens extérieurs, puisque notre demande a explosé depuis maintenant le 15 mars, où on a aidé, donc voilà, on a aussi regroupé donc, des gens extérieurs qui nous aident, parce que maintenant on a du coup à l'heure actuelle à peu près entre 1300 et 1400 bénévoles à notre disposition en région sud, en région Rhône-Alpes et en région Île-de-France. Parce que notre demande est extrêmement importante, que ce soit pour les courses, les médicaments ou rompre l'isolement. Voilà.
Oui, ça veut dire que vous avez des gens qui, pour la plupart, sont issus du secteur médico-social, toujours ?
Oui, parce que nous, c'était pour nous un gage, pour nous, de respect aussi de notre norme, de notre charte éthique et déontologique, et que les gens aussi respectent drastiquement aussi les normes sanitaires, puisqu'on sait que les gens, les personnes vulnérables sont quand même voilà, donc les plus souffrantes et atteintes du coup en termes du virus. Donc c'est extrêmement pour nous important que donc les bénévoles respectent de manière drastique les normes sanitaires. Donc c'est pour ça que moi je préférais et que mon équipe préfère qu'on envoie du personnel soignant qui font ça en plus sur donc du coup leur jour de repos. Donc je les remercie par rapport à ça, mais qui du coup voilà, on a un gage aussi voilà, d'être sûr que tout est respecté.
Oui, et c'est vrai qu'en trois semaines, vous avez fait plus de 400 interventions. C'est vrai que c'est à signaler. Abdelali, je disais qu'effectivement, il y avait des synergies qui pouvaient naître hein, parce que on a aujourd'hui cette force de frappe, finalement, quand on voit les associations, les startups qui sont en train de se mobiliser pour essayer de venir en aide au maximum de personnes.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'avec mon Émile, bon, je les connaissais un petit peu et c'est vrai que avec cette émission, on va pouvoir travailler ensemble aussi peut-être sur des opérations communes. Et comme le disait mon collègue, c'est vrai que la dimension sanitaire est extrêmement importante. C'est pour ça que nous, moi-même en tant qu'infirmier, avec l'équipe médicale, on s'est tout de suite posé ces questions-là sur la partie médicale et de se dire qu'on aura aussi un regard beaucoup plus avec une approche qui est beaucoup plus proche de proximité médicale et qui va éviter aussi d'avoir une explosion de virus qui se transmettrait. Et donc pourquoi on a voulu aussi insister sur le 93, c'est parce que là c'est là où il y a le plus de besoins et le moins de moyens, et puis c'est une population qui vit beaucoup de dimensions sociales complexes. Et on s'est dit, il faut d'abord commencer sur le 93 pour dupliquer ailleurs. C'est pour ça qu'on a lancé aussi Marseille. On a accompagné là depuis le 12 mars près de 3000 personnes sur l'aspect médical, sur l'aspect social, sur l'aspect alimentaire. Et là, ça y est, on a commencé à avoir d'autres antennes qui s'ouvrent.
Et j'en profite pour ajouter qu'Emmanuel Macron est attendu hein, cet après-midi en Seine-Saint-Denis, qui est effectivement l'un des départements les plus touchés par cette épidémie de coronavirus, et qu'il va y rencontrer des professionnels de santé et de l'accompagnement social. C'est dire si ce qu'on est en train de vivre en ce moment est important et si vos initiatives sont capitales. Même idée de solidarité finalement derrière une autre initiative qu'on connaît aussi ici à la France Bouge, celle de We Pharma, qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Bonjour Annabelle Champagne.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de We Pharma et vous aussi, vous étiez venue nous parler dans la France Bouge de la livraison de médicaments que vous aviez mis au point grâce à des voisins solidaires notamment. Aujourd'hui, vous avez décidé d'élargir votre champ de compétences et vous allez essayer d'étendre votre service. Racontez-moi.
Exactement. On a redimensionné l'application en fait en urgence pour un dimensionnement national pour servir en fait et être gratuit pour toutes les pharmacies de France. L'application aujourd'hui, elle est mise à disposition de l'ensemble des pharmacies de France qui nous en font la demande et elle est gratuite pour toute la durée du confinement afin de permettre à tous les patients, aux bénévoles et aux associations de pouvoir se coordonner pour le portage de médicaments et en faire un geste simple, c'est-à-dire que le patient ou l'aidant ou le professionnels de santé, médecins, infirmières peuvent envoyer l'ordonnance du patient, donc de la personne âgée notamment, à la pharmacie directement. Et ensuite, c'est le pharmacien qui prépare la commande et qui, sur des créneaux horaires qui sont vus avec nos bénévoles We Pharma, mais qui peuvent être aussi des bénévoles de toutes les communautés d'entraide aujourd'hui qui se créent. Et effectivement, c'est une énorme force aujourd'hui, cette solidarité nationale, permettre une livraison d'un geste simple, c'est-à-dire que le pharmacien, pour respecter les gestes barrières, remet les médicaments en dehors de la pharmacie au livreur bénévole qui ne rentre pas dans la pharmacie. Et ensuite, le bénévole dépose soit au pied de l'immeuble, soit devant la porte du patient, le paquet de médicaments. Voilà, c'est un geste simple. C'est la livraison WePharma, c'est gratuit et c'est pas plus compliqué que ça.
Oui, c'est pas compliqué et c'est important, surtout dans le secteur de la santé, toujours, Aurélien. Il y a d'autres initiatives, je crois, que vous avez repérées.
Oui, par exemple, des pharmaciens qui ont mis en place le réseau OptiSoins, c'est dans les Alpes-Maritimes. Ils proposent donc là aussi de livrer gratuitement les traitements médicaux aux personnes confinées ou à toute personne qui serait dans l'incapacité de se déplacer. Et puis, il y a également une entrepreneuse de Rouen qui vient de lancer Dolipharm, le service de livraison de médicaments à domicile, et qui s'est déjà mis en place avec 5 pharmacies.
Alors, de votre côté, avec WePharma, Nabel Champagne, vous êtes, je crois, en discussion avec la Croix-Rouge pour qu'il y ait
Exactement.
Justement plus de pharmacies qui s'inscrivent et que l'appli se développe au niveau national.
Exactement. L'objectif, c'est vraiment de mettre l'application gratuite à la disposition de toutes les associations. Donc, notamment, on est en discussion pour le mettre au niveau du centre d'appel de la Croix-Rouge et permettre, en fait, aux bénévoles d'être directement coordonnés avec la pharmacie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de... l'ordonnance en fait est gardée au niveau de la pharmacie. Le pharmacien renouvelle automatiquement les traitements sur WePharma et envoie les bénévoles directement livrer les patients. Donc ça permet en fait de faciliter, simplifier et sécuriser le travail des bénévoles. Et l'objectif c'est de se lancer effectivement auprès de grosses associations comme la Croix-Rouge pour une dimension nationale tout de suite.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On le voit, la France bouge vraiment grâce à vous et on vous en remercie parce que c'est important de participer à cet élan de solidarité pendant cette crise sanitaire que nous traversons. Il est 13h42.
Europe 1.
Garder le lien avec l'extérieur, c'est primordial, que l'on soit chez soi, seul ou en EHPAD. C'est ce que vous aident à faire nos deux prochains invités. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h44, vous êtes dans La France bouge, la France qui se bouge, qui se mobilise. Et c'est vrai que en ce moment, on pense tous à nos aînés, à nos personnes âgées qui sont soit seules chez elles, soit en EHPAD. Et c'est vrai que on aime tous, en règle générale, recevoir une petite lettre, un petit dessin ou un coup de fil. C'est encore plus vrai quand notre quotidien rime avec solitude. Bonjour Pierre-Hugues Moreau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir effectivement à nouveau avec nous. Vous êtes le fondateur de Parle à Papy. Et alors, vous proposez d'envoyer des nouvelles aux grands-parents. Racontez-moi comment ça fonctionne ce système.
Alors, le système Parle à Papy, c'est une solution très simple qui permet aux familles d'envoyer des nouvelles sous forme de petites photos imprimées, papier, à leurs grands-parents tous les mois. Et tout ça, ça se fait directement depuis une conversation WhatsApp. Donc concrètement, on réunit toute la famille sur une conversation WhatsApp. Les cousins, les frères et sœurs envoient des photos, des petits messages. À la fin du mois, on récupère tout ça automatiquement. On met ça sous forme de petites photos avec le message en dessous. Et on l'envoie chez les grands-parents dans une petite enveloppe rouge à la fin du mois.
Alors ça existait déjà par la papy. On en avait parlé dans La France bouge. Mais aujourd'hui, vous avez essayé de simplifier le système pour que justement, il y ait de plus en plus de personnes qui y aient accès.
Tout à fait. Et donc... ce service, on a décidé de le rendre le plus utile possible pendant cette période de confinement et pendant la crise actuelle, en lançant avec deux autres initiatives l'opération de solidarité pour nos aînés. Et donc cette opération, l'objectif, c'est d'apporter au plus de personnes âgées et isolées possible un petit rayon de soleil dans leur journée grâce à une petite enveloppe, un petit courrier qui arrivera chez elles.
Et donc, ça signifie que je peux, moi, par exemple, écrire à une personne âgée que je ne connais pas, tout simplement parce que j'ai envie qu'elle reçoive des nouvelles et qu'elle ait un sourire au coin des lèvres.
Complètement. Donc, cette initiative de solidarité pour nos aînés, donc on l'a lancée à 3 initiatives, donc Parle à Papy, Nos Vieux et à Nos Plumes. Donc, Parle à Papy, on a mis à disposition notre service gratuitement. Tout le monde peut venir s'inscrire sur le site Parle à Papy pour envoyer des nouvelles à ses grands-parents. Donc c'est le service classique, mais qui est rendu gratuit. Donc c'est toujours disponible sur notre site et on le propose le plus largement possible pour que ce soit utile. Et dans un deuxième temps, on a travaillé avec Pauline et Louise sur l'initiative À Nos Plumes. Et en fait, À Nos Plumes, ça vient au-delà de ce qu'on fait chez Parle à Papy. Ça vient permettre à des personnes isolées qui n'ont pas forcément de famille proche, qui souffrent de leur isolement, de recevoir des nouvelles de la part d'un volontaire en fait qui va vouloir entrer en relation avec elle par le biais de Par la Papie. Donc c'est des petites photos, des petits messages qu'on va envoyer chaque semaine chez une personne qu'on ne connaît pas encore mais qu'on va rencontrer.
Oui, ça crée du lien, ça crée du lien avec des personnes qu'on ne connaît pas. Vous avez également, je crois, lancé une cagnotte en financement participatif sur Ulule.
Donc complètement. Après avoir lancé donc ces différentes initiatives, au début, bon, on pouvait se permettre de financer avec Par la Papie, mais donc les initiatives ont pris de l'ampleur et l'initiative À nos plumes est en train d'exploser en ce moment. Et on a lancé donc cette cagnotte sur Ulule. Qui s'appelle donc c'est Solidarité pour nos aînés sur Ulule, et l'objectif en fait c'est de pouvoir financer tous ces courriers qui sont envoyés chaque semaine à ces personnes isolées.
Combien de courriers? Vous avez une idée de la masse de lettres qui ont été envoyées comme ça aujourd'hui?
Alors, pour le moment sur l'initiative Par la Papie, donc qui est l'initiative qui a été lancée le plus tôt, on va dire au tout début du confinement, on a 2000 familles qui se sont inscrites pour envoyer des courriers. Et donc on doit avoir déjà 1500 courriers qui sont partis grâce à cette initiative. Pour ce qui est de À nos plumes, donc l'initiative est très récente, c'est le premier envoi a lieu demain. Ah. Et on a nos 150 premiers matchs, un jeune, un volontaire qui envoie des nouvelles à cette personne âgée. Donc on a 150 personnes qui envoient demain et les enveloppent partent demain.
Et ces personnes, vous les avez trouvées comment, ces personnes âgées qui sont isolées? Vous avez réussi à collecter leur adresse en passant par des EHPAD par exemple, en passant par des foyers?
Alors c'est tout un sujet de réussir à entrer en contact avec ces personnes qui justement sont isolées et pas forcément connectées. Donc nous on s'adresse plutôt aux personnes qui sont isolées chez elles, donc c'est pas forcément des gens qui sont en EHPAD, on passe pas par les EHPAD. Et donc ça passe par des réseaux associatifs, des réseaux très locaux. Au tout démarrage, par exemple, c'est ma grand-mère Didi qui m'a donné le contact des 30 personnes de son village qui étaient isolées, qu'elle va voir souvent, mais qu'elle peut plus les voir à cause du confinement. Donc ça a commencé comme ça, et puis on tâtonne un peu, et souvent c'est des associations qui nous donnent les contacts de personnes qui en auraient besoin, ou c'est des proches de ces personnes-là.
Et n'importe
qui peut inscrire un proche.
Le bouche à oreille, ça marche aussi et ça marche très bien. Aurélien, dans la même veine finalement, je crois que vous avez bien aimé une initiative qui s'appelle Lire et relier.
Oui, ça a été imaginé par l'auteur Régine de Tambelle et avec quelques dizaines de bénévoles en Normandie et donc partout aussi en France. Vu que c'est par téléphone, il propose des lectures aux résidents d'établissements, notamment les EHPAD, mais aussi à des particuliers qui le souhaiteraient. Donc des lectures de quelques minutes, des contes, des poésies, des fables. Il suffit de contacter Régine de Tambelle via son site internet. Et donc voilà, avoir quelques minutes de lecture par téléphone, ça peut aussi rythmer une journée confinée.
Oui, vous restez avec nous, Pierre-Hugues. On va accueillir ensemble Laure Cohen, qui est la cofondatrice de Certidil. Bonjour Laure.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes au départ un site de produits électroniques reconditionnés. Et alors vous avez décidé de vous mobiliser pour donner aux personnes âgées des smartphones et des tablettes, c'est ça?
Exactement. On a un projet, un dispositif solidaire, dont le premier penchant est d'offrir aux EHPAD et aux centres de soins des tablettes et des smartphones, dans le but de rompre avec l'isolement et permettre aux familles de voir leurs personnes âgées qui sont du coup isolées et qui du coup n'ont plus la possibilité d'avoir les visites quotidiennes dont ils ont l'habitude. Le second penchant de ça est que vous avez en fait un certain nombre de personnes qui sont à l'aise avec tout ce matériel technologique et une autre population, je dirais, qui est moins à l'aise et qui n'a pas eu l'occasion forcément de devoir utiliser les tablettes. Donc ça s'adresse à l'ensemble des personnes âgées. Alors aux EHPAD, souvent vous avez des auxiliaires de soins, enfin des soignants qui sont là pour aider, mais les personnes âgées qui sont isolées chez eux n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser un FaceTime ou un Skype comme nous on pourrait l'avoir. On a mis donc en place un numéro vert où l'ensemble de nos salariés se sont mobilisés pour répondre, être disponibles tous les jours de 10h à 18h. Bon, je pourrais communiquer le numéro de téléphone.
Allez-y, allez-y, bien sûr. Oui, on vous écoute.
Voilà, c'est important pour nous de partager l'information. Donc, le numéro, c'est le 01 76 50 04 05. Et l'idée, c'est en permettant le lien, de maintenir le lien en fait avec sa famille, c'est leur permettre d'installer soit une application, soit juste de comprendre comment tourner une caméra. Si vous n'avez jamais utilisé, vous ne savez pas forcément comment faire.
Donc vos experts les aident à manipuler, à faire ces manipulations justement et à se familiariser avec, avec le smartphone ou la tablette.
Exactement. On a ça. On a du coup eu dans un premier temps aux EHPAD à qui on a livré des tablettes, des appels pour les aider à configurer, à installer un compte, à leur expliquer un petit peu comment on voyait la possibilité de tourner dans les services pour permettre à chaque malade de pouvoir parler à sa famille. Et du coup, on a mis en place ce numéro vert pour l'ensemble des personnes âgées qui pourraient avoir ce besoin.
Alors justement, puisqu'on parle de numérique, Aurélien, et de garder ce fameux lien, il y a pas mal d'initiatives qui se sont multipliées.
Oui, par exemple, ça va de l'initiative personnelle d'un cheminot de la SNCF en Moselle qui a pu rassembler, grâce à son entreprise, 70 tablettes pour ensuite les distribuer dans plusieurs EHPAD du département. Cela permet donc évidemment de mettre en place des appels vidéo entre les personnes âgées et leurs proches. Et puis vous avez aussi AMI, A2MY, une communauté numérique pensée pour les plus de 60 ans. Ça a été créé dans le Gard, mais c'est en train de se développer dans la Manche, en Haute-Garonne et en Bourgogne. Là, cela permet de recenser les services solidaires qui existent autour de chez vous, des services gratuits et sans contact. Et d'ailleurs, AMI fait partie des dizaines de solutions innovantes et sécurisées, hein, c'est important, qui sont répertoriées sur le site silvervalley.fr.
Merci Aurélien pour toutes ces précisions et merci à Pierre-Hugues Moreau, fondateur de Parle à Papy, et à Laure Cohen, cofondatrice de Certidil, d'avoir été avec nous pour aider nos aînés à y voir un petit peu plus clair en ce moment et à garder ce fameux lien pour rompre l'isolement en cette période de crise sanitaire.
Europe 1.
13h53, on reste ensemble. C'est l'heure de vos questions à notre expert. Roland Pérez arrive. À tout de suite. 13h55, c'est l'heure de retrouver l'avocat d'Europe 1. Bonjour Roland Pérez.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Vous répondez chaque jour juste avant 14h aux questions des auditeurs, celles posées au 39-21 bien sûr, et sur le hashtag Radio Ouverte. On a Raymond qui est avec nous aujourd'hui, qui nous appelle du Havre. Bonjour Raymond. Raymond, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bonjour Raymond, vous êtes en direct avec nous sur Europe 1 et vous êtes propriétaire et oui. Vous avez une question à poser à Roland, je crois.
D'accord, oui.
On vous écoute.
Alors oui, non voilà, je m'étonnais, je écoute Robin depuis 1950, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Oui.
J'étais à Saint-Vendel dans la Sarre, à côté du réémetteur de Europe 1. Voilà. Bon alors là, moi je suis un ancien commerçant, hein, je circule beaucoup dans la ville, je m'aperçois de beaucoup de choses. On nous a fermé tous les commerces. Moi j'habite à Saint-François, hein, c'est un quartier,
quartier du Havre,
au Havre. Hein. Donc on n'a plus aucun commerçant, même le tabac il est fermé. Bon, il avait peut-être un petit peu trop bu, donc il est parti en soin.
Oui, bon, ça c'est... Raymond, on a peu de temps, il faudrait que Roland ait le temps de vous répondre. Quelle est votre question?
Bon, alors, la question, voilà, elle était là, c'est que je demandais, tous ces commerçants là qui sont fermés, ils ont un loyer à payer, hein, mm-hmm. Et quand je vois, moi, les grandes surfaces qui sont ouvertes, ils n'ont pas de mal à payer leur loyer, hein. Alors, voilà, moi, j'ai un locataire aussi qui a un pub, hein, il fait 5-6 000 de recettes par euro par jour. Hein,
donc, vous voulez savoir comment les commerçants vont pouvoir payer leur loyer s'ils n'ont pas de rentrée, quoi, si je résume.
Est-ce que je dois attendre, hein, parce que moi, je n'ai pas envie de lui donner la facture tout de suite. Je vais attendre qu'il recommence à travailler. Hein, mais il y en a d'autres, ils vont être dans le cas.
Alors, peut-être que Roland peut nous éclairer.
Raymond. Oui, Raymond, la loi d'urgence qui a été évoquée n'a pas pour l'heure proposé une suppression du paiement des loyers. Elle a simplement proposé pour les très petites entreprises un report ou un réchelonnement dans l'avenir des loyers, c'est-à-dire que si le bar qui est donc fermé, qui rentre dans les commerces qui ont aujourd'hui été interdits d'ouvrir, eh bien si ce bar, ce pub dont vous êtes propriétaire des murs ne peut pas payer le loyer et à l'évidence, il ne le pourra pas s'il n'a pas d'activité. Il va vous demander ce qu'on appelle un report de ce loyer. Vous allez rééchelonner dans le temps ce loyer. Et encore une fois, les dispositions qui ont été prises n'ont pas pour but de supprimer purement et simplement le loyer. Donc il va avoir des difficultés, certes, vous allez pouvoir discuter avec lui, et il faut qu'il entre dans le dispositif de ce qu'on appelle les très petites entreprises pour pouvoir bénéficier de ce report. S'il n'entre pas dans ce dispositif des très petites entreprises, de toute façon, il va pouvoir bénéficier de délais avec vous, puisque tout juge qui serait saisi, compte tenu de la situation, lui accordera les plus larges délais pour s'acquitter des loyers qui ne pourront pas être payés en temps et en heure. Voilà, Raymond.
Voilà pour la réponse à Raymond au Havre. Roland, on a quelques secondes pour répondre à Hervé sur le hashtag Radio Ouverte qui nous dit: est-ce que les entreprises peuvent demander aux assurances de les couvrir pour perte d'exploitation? Est-ce qu'on peut considérer que l'arrêt de l'activité est un cas de force majeure?
Alors, l'arrêt de l'activité est un cas de force majeure justement pour les commerces dont on parle, les restaurants, les cafés qui ont dû fermer, c'est-à-dire qui n'ont même pas pu livrer des repas, qui n'ont pas une baisse de chiffre d'affaires, mais plus de chiffre d'affaires du tout. Il y a un article dans le Code civil qui permet de pouvoir invoquer la force majeure et qui permettrait d'ailleurs à ces entreprises de suspendre le paiement de loyer. Quand je dis suspendre, c'est-à-dire ne pas payer du tout les loyers pendant le cas de fermeture, pendant la fermeture de leur établissement, pour cas de force majeure. Alors c'est la jurisprudence de façon générale qui autorise ce type de situation quand on est face à un cas de force majeure, si les conditions sont bien remplies dans ces cas de force majeure. Sur la perte d'exploitation elle-même et le jeu des assurances, on a eu l'occasion, Raphaël, de le rappeler, les contrats d'assurance classiques ne prévoient pas de perte d'exploitation dans ces situations-là, même de catastrophes sanitaires qui n'ont jamais été prévues. Donc ça va être extrêmement difficile. Vous avez une sénatrice aujourd'hui qui est à Rennes et qui vraiment aujourd'hui milite pour que ce type de perte d'exploitation puisse être reconnu dans le cadre précisément de cette pandémie, et elle a interpellé à plusieurs reprises Bruno Le Maire pour qu'il puisse travailler avec les compagnies d'assurance pour peut-être que cette perte d'exploitation puisse jouer en faveur de toutes les entreprises qui ont dû purement et simplement aujourd'hui fermer leurs portes.
Merci Roland pour vos explications. On vous retrouve demain, bien sûr, juste avant 14h, pour répondre aux questions des auditeurs au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Merci Aurélien, à demain midi sur Europe 1 pour La France Bouge. Bienvenue si vous arrivez sur Europe 1, il est 14h.